Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Matteau, chanteur et multi-instrumentiste de l'artiste de la semaine sur notre antenne. Le duo Rouanel et Tite Nacelle. Axel, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment va Sophie, là? Comment va Sophie, ta compagne de scène?
Bon, elle va très bien, merci.
Bon, très bien. Alors, Sophie Perrin s'appelle désormais Sophie Signoret. Hein. Alors, ça te fait quoi d'avoir à tes côtés la petite fille d'une des plus grandes actrices françaises? T'as eu un peu l'impression d'être le Yves Montand de Riorges?
Ah, exactement, tu as tout deviné.
Alors, vous êtes désormais donc tous les deux mariés avec des enfants. La petite Lynn pour Sophie. Alors, par rapport à vos débuts il y a 10 ans, c'est plus compliqué de concilier la vie d'artiste et la vie privée. Vous arrivez facilement à vous partager.
Oh oui, non, ça va, on arrive. Il suffit de s'organiser, mais voilà, quand on est bien organisé, il n'y a pas de problème pour mener les deux de front. Hein. De toute manière, chanteur, c'est un métier comme un autre finalement. Hein. C'est pas plus compliqué qu'être infirmière ou routier. Hein. Voilà, on a des horaires un peu ouais, tardives, un peu liés à des déplacements, mais voilà, ouais, on arrive à gérer tout ça. Voilà.
Pour avoir des bonnes nounous, c'est tout.
Voilà, exactement. Voilà. Il y a les grands-mères.
Voilà. Et les compagnes ou compagnons qui sont conciliants.
Voilà.
Alors ça fait donc, je disais, 10 ans que votre duo s'appelle les Tite Nacelle. Alors on dit souvent qu'il faut 10 ans à un artiste pour se former, se connaître et savoir vraiment où il veut aller. Alors par rapport à vos débuts, vous savez plus aujourd'hui où vous voulez aller?
On ne le sait pas moins en tout cas. On a un rythme de croisière qui est le nôtre. Ça avance à notre rythme, toujours un peu plus vers le haut. Donc de plus en plus de concerts, les salles de plus en plus remplies, un album tous les deux ans. Donc on n'a pas de but ultime, de but précis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à tourner comme ça, à travailler comme ça. Ça nous va bien. Tant qu'on peut vivre de notre métier et continuer à se faire plaisir, il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, on n'a pas d'ambition ultime, quoi. Tant qu'on peut continuer à faire des concerts, à vendre des disques et se faire plaisir, c'est l'essentiel.
Bien. Alors notre dernier entretien téléphonique date du jeudi 9 février 2006 à l'occasion de la sortie de votre quatrième album Crack. Ces deux années ont été bien remplies. Alors t'as eu le temps de prendre plus de 2 semaines de vacances ce coup-ci?
Oui, en 2007, oui. Oui, oui. Oui, en 2007, ça a été un peu plus calme, donc c'était l'année de la création du nouvel album, de 2-3 trucs, donc on a eu le temps de bien travailler. On a eu une grosse tournée en 2006, donc en 2007, logiquement, ça a été plus calme, donc on a pu bien travailler et même s'octroyer 2 semaines de vacances. Ouais.
Alors pendant ces 2 années, tu le disais aussi, vous avez enchaîné les concerts comme à votre habitude. Vous avez aussi continué à composer de nouvelles chansons pour ce nouvel album 2-3 trucs qui est sorti le 7 avril 2008 sur votre label Atome. Alors écrire et jouer sur scène ne sont pas deux périodes différentes pour Sophie et toi?
Non, c'est de toute manière depuis 10 ans, il y a beaucoup d'artistes, mais bon, je pense que c'est ceux qui sont le mieux lotis qui peuvent se permettre de tourner une année et puis l'année d'après vraiment se consacrer qu'à l'écriture. Nous, c'est pas le cas. Nous, on tourne tous les ans. Donc on a toujours eu l'habitude d'écrire même entre deux concerts ou même à l'hôtel ou dans le camion. Donc voilà, et puis de toute façon c'est pareil, ça c'est un truc qu'on prépare pas à l'avance. On écrit vraiment quand on en ressent le besoin ou quand on en a envie, en fait. Donc voilà, s'enfermer 1 mois, 2 mois, 3 mois chez nous pour écrire, non, faut pas que ce soit quelque chose de forcé. Faut que ça vienne naturellement, et en général ça vient naturellement assez souvent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'arrête jamais d'écrire.
Alors pour réaliser ce nouvel album, vous avez fait appel à Lionel Duchaussois et à Kent.
Oui.
Ce dernier apparaissait sur l'album Crack. Alors c'est tout à fait naturellement qu'il s'est occupé de vous avec son ingénieur du son.
Oui, en fait, notre maison de disques nous a dit que ce serait bien que vous trouviez un réalisateur pour cet album, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et puis nous, on était plus ou moins timorés par rapport à cette idée, parce qu'on voulait bien travailler avec quelqu'un, mais pas quelqu'un qu'on connaissait ni en noir ni en blanc. Donc on a réfléchi, puis on s'est dit, bah tiens, Kent, peut-être que ça le brancherait, même s'il a s'il a jamais trop fait ça avant, ce serait bien parce qu'on s'entend bien, on se connaît bien, il connaît bien notre musique. Donc on lui a proposé et il a dit ok, pas de problème. Et c'est lui qui nous a dit il faudrait travailler avec Lionel en réalisation technique parce que voilà, il est doué pour ça. Et puis du coup voilà, on a travaillé vraiment tous les quatre ensemble. Et c'est vrai que ça a été une belle expérience et un enrichissement artistique assez important en fait. Ça a changé pas mal de choses en fait de travailler avec un réalisateur pour nous.
Ouais. Alors comment s'est passé l'enregistrement avec Kent et Lionel Duchaussois? Ils vous ont amené vers des directions que vous n'aviez pas forcément envie de prendre?
Non, pas forcément envie de prendre, mais pas auxquelles on n'avait pas forcément pensé en fait, tout simplement. Nous, on avait quand même travaillé beaucoup plus que pour les autres albums, parce qu'on sait que on commence à connaître le studio, on sait que c'est un petit peu fastidieux pour nous qui sommes pas des musiciens de studio. Donc là, on l'avait vraiment travaillé en amont, on est allé en studio en septembre, on avait commencé à travailler en février, en fait, chez moi, parce que j'ai un petit home studio, je me suis équipé pour vraiment parer à toutes les éventualités, tous les problèmes techniques qu'on peut avoir en studio. Donc on est vraiment arrivé très près avec les maquettes assez propres. On les a fait écouter à Kent et Lionel, on en a discuté, on a fait des réunions, comme on dit. Et puis on a fait un choix des titres. Et eux ont pu se fouiller en regardant un peu les structures des chansons, en disant ce pont musical est peut-être pas utile, là ce serait bien de doubler le refrain. Voilà, c'était plus dans les structures et dans les arrangements qu'ils sont intervenus. Et puis, il y a une chanson qui est Mona et Monsieur l'Horloger qu'on n'arrivait pas du tout à faire sonner, on ne sait pas pourquoi, elle sonnait pas comme on voulait. Et puis, Kent et Lionel sont partis sur un tout autre style de morceau, et c'est vrai que là, on s'attendait pas à ça. Ils nous ont vraiment emmenés vers quelque chose qui n'était pas prévu à la base, et c'est plutôt une chouette surprise, en fait.
Mmh. Alors, Kent, en tant qu'auteur de chansons, est aussi intervenu dans le choix des mots dans les chansons?
Non, par contre, non.
Non.
Non, non. Non, non, dans le choix des mots... Non, je pense que justement le fait qu'il soit auteur, il sait que c'est quelque chose en général que l'auteur aime pas trop qu'on touche en fait. Si ça avait été établi à l'avance, on retravaille les textes ensemble, d'accord. Mais là, comme les textes étaient écrits, c'est quelque chose d'assez personnel ça. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'était pas ce qu'on s'était donné comme axe de travail. Donc voilà, et puis c'est vrai, comme je te dis, les textes, ça nous aurait été difficile de les changer, parce que on y tenait vraiment, et Kent le savait de toute manière, et voilà, la compréhension d'auteur, c'est fait immédiatement, en fait.
Alors, pour enregistrer votre album, vous êtes venu chez nous, dans l'Ain, plus exactement au studio du Chanet, dans la commune du Chanet, à côté de Tonnet, oui.
Oui, oui.
Un studio appartenant à Didier Christini, également guitariste et choriste sur votre nouvel album. Alors,
alors
comment vous êtes-vous retrouvé dans notre département?
Eh ben, écoute, par le fruit des connaissances, en fait. Didier a travaillé quelques fois avec les studios Anatole à Lyon, et Lionel étant de Lyon, et Kent étant un ancien de Lyon, connaissait les gens du studio Anatole. C'est eux qui ont parlé de Didier Christini, de son studio du Chanet. Et voilà, la chose s'est faite comme ça. On est allé visiter le studio, ça nous a plu, et voilà, et on n'a pas été déçus, parce que le studio est un très bon studio, et Didier Christini est un mec en or. Donc voilà, ça a été vraiment une super rencontre. On a vraiment passé 13 jours, quasiment 24 heures sur 24 ensemble, et c'est pour la première fois de toute notre petite carrière, ça a vraiment été un plaisir d'être en studio, en fait.
Alors, on retrouve également François Lebleu à la batterie, au clavier et puis aux percussions. Alors, Philippe Prom a bien voulu vous le prêter, à moins que cela ne soit Kent ou Lionel avec le groupe Léopard qui l'a amené dans ses bagages.
Eh ben, voilà, c'est un peu ça, en fait. François a été longtemps le batteur de Kent.
Ouais.
Il a été aussi le batteur et l'organiste de l'affaire Louis Trio, avec lequel Lionel avait travaillé. Donc là, encore une fois, c'est de connaissance en connaissance que les choses se font. Donc là aussi, c'était une super rencontre et humaine et artistique, en fait.
Ouais. Alors, ce nouvel album, parlons-en. Hein. Il est sorti le 7 avril 2008 sur votre label Atom. Vous l'avez appelé 2-3 trucs. Alors, par rapport à Pareil ou Crack, le titre indique-t-il que vous avez voulu y raconter autre chose que ce que vous racontez d'habitude?
Je sais pas si ça a été réfléchi comme ça, mais cet album est un petit peu différent au niveau des textes. Il est un peu plus détaché en fait, un petit peu plus regard extérieur. Sur les albums précédents, il y a beaucoup de chansons autobiographiques, de chansons personnelles. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit recul qui s'est mis par rapport à notre société, par rapport aux choses qui nous touchent et qui nous agacent. Donc il y a une petite différence, ouais, au niveau texte. Ça reste toujours du type Nacelle, mais c'est peut-être aussi le fait qu'on vient de passer la trentaine, peut-être qu'on voit les choses différemment, je sais pas. C'est pas réfléchi, en tout cas, c'est comme ça. Ouais. Voilà, c'est bon, passer de pareil crack à deux, trois trucs, il y a pas non plus, voilà.
Alors, il y a des titres forts dans ce nouvel album. Le premier, pour moi, est la chanson 60 millions de 3 petits points. Alors, connaissant ton amour pour les textes de Renaud, on serait presque tenté de faire la comparaison avec le morceau de 91, 500 connards sur la ligne de départ. Vous avez choisi de compléter le titre avec pigeon, mouton et cochon. Tu aurais aimé rajouter un gros mot comme celui de Renaud à la fin du titre ?
Non, parce que non, ça aurait été... Ça aurait gâché le côté image et métaphore avec les animaux, donc c'était pas la peine d'en rajouter. Je crois que ça s'arrêtait à cochon, je crois que c'est assez suffisant, quoi. Le gros mot, il est peut-être là d'ailleurs, en cochon. Voilà, mais moi, c'est pas 500 connards qu'elle me fait penser, cette chanson, c'est plutôt hexagone en fait.
D'accord.
Voilà. Sauf qu'on s'inclut dans les 60 millions.
Donc même si Sophie et toi, vous vous englobez, tu l'as dit, aussi dans les 60 millions de, vous vous mettriez plus dans quelle catégorie ? Vous êtes des pigeons, des moutons ou des cochons ?
Ah, des trois. On y est tous, là, donc... non, il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas assez par les trois vont ensemble.
Même s'il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup qui sont... vous mettez dedans, mais il y en a quand même beaucoup qui sont plus dedans que vous, quand même, non ?
Bah, bien sûr. Hein ? Bien sûr. Non, mais c'est une chanson, en fait, qui tout simplement, c'est pour résumer un petit peu la passivité du français moyen, quoi. La soumission et le fait qu'on boive les paroles de la télévision et de l'homme qui est omniprésent à la télévision, donc c'est ça, quoi, en fait. Moi, c'est une chanson un peu rageuse parce que je pensais je croyais le français un petit peu plus révolté, un petit peu moins insoumis, le fameux gaulois, quoi. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus, en tout cas, parce que voilà, on est dans la mouvance du capitalisme et de la consommation de masse et on est dans l'eau, on n'est pas résistant face à ça, quoi. Donc voilà, c'est une chanson colère, quoi.
Ouais. Alors pourquoi avoir limité la chanson 60 millions d'eux à la France? Parce que dénombrer le nombre de personnes dans le monde vivant dans ces sociétés de consommation serait trop compliqué.
Non, mais c'est que ça fait un paquet de couplets, quoi. Non, on aurait pu faire 6 milliards ou 8 milliards, je sais même pas, ouais, combien on est sur Terre. Non, parce que on peut pas parler, à la limite on aurait pu étendre ça à tous les pays développés, les pays riches, on aurait pu développer cette chanson à ce niveau-là, mais pas par rapport aux autres, quoi. Donc non, c'est vraiment sur le monde occidental là que je voulais m'appuyer, en fait. Donc, ouais.
Alors Sophie a écrit une belle chanson sur l'anorexie mentale poupée russe. C'est parce que c'est un trouble qui touche souvent les femmes que c'est ton alter ego qui a eu envie d'écrire cette chanson, parce qu'elle est aussi gênée par la place de l'image de la femme dans notre société.
Non, là c'est peut-être plus personnel, en fait, cette chanson. Je crois qu'elle connaît quelqu'un très bien qui a ce problème d'anorexie et elle voulait en parler à travers une chanson avec cette image des poupées russes, en fait. Chaque fois qu'on en ouvre une, il y en a encore une ou deux dedans, et qui est encore plus mince et qui est de plus en plus mince. Donc voilà, c'est la place de la femme dans la société. Je pense pas qu'elle ait voulu aborder ce thème là dans cette chanson, bien que la femme doit être svelte. Doit correspondre à des normes, ouais, auxquelles finalement très peu de femmes correspondent. Donc voilà. Mais je pense pas que ce soit le thème social qu'elle ait voulu aborder. C'était un peu plus personnel.
Ouais. Alors, qui a eu l'idée de reprendre la chanson de Georges Moustaki, Chanson Cri, bah, qui parle du viol, mais aussi de la place du chanteur dans notre société, et pas seulement à la télévision, d'ailleurs.
Mm-hmm. Bah, c'est une idée commune, en fait. Moi, je connais bien Moustaki, parce que j'ai été bercé à ça, en fait, par ma mère. Et puis, en écoutant des disques, et puis en faisant un peu le tri, en oubliant la chanson Ma Liberté, le Métèque, ou encore d'autres qui sont très connus, j'ai découvert celle-là, qui s'appelle Chanson Cri, donc. Et on l'écoutait ensemble avec Sophie, on était stupéfaits par le texte, et on était surtout stupéfaits de la réalité et de l'intemporalité du texte, en fait. On a regardé à peu près la date de quand il avait été écrit, ça date des années 60, l'année 73, il me semble. Donc c'est terrible, parce que cette chanson colle encore aujourd'hui à notre société, quoi. Donc grave, c'est dramatique, parce que ça veut dire qu'on n'a pas évolué dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'on a voulu la mettre sur notre disque. On a demandé à Georges Moustaki si c'était possible, il n'y a eu aucun problème. Donc voilà, et puis c'est cette chanson, on avait pris le parti de commencer chacun de nos concerts, avant même de faire l'album, par cette chanson pour tirer un peu la sonnette d'alarme, d'ailleurs, comme c'est dit dans le texte. Et voilà, on a décidé de la mettre sur le disque, puisqu'elle faisait partie intégrante de notre répertoire, même si elle n'est pas de nous à la base, en fait.
Ouais. Alors, bien évidemment, pardon, vous êtes reparti sur les scènes de France et de Navarre. Alors, qui dit nouvel album, dit forcément nouvelle mise en scène et nouveaux instruments.
Oui. Ah. En tout cas, chez nous, ça marche comme ça.
C'est ça.
Oui, bah, on a un nouveau décor, qui cette fois est joli et utile. Donc, on a une espèce d'établi en forme de U sur lequel sont posés tous les instruments de Sophie, en fait, et donc on joue avec cette espèce d'établi qui est entre nous deux. On passe dessous, on passe derrière, voilà. Et puis nouveaux instruments, oui, bah il y a le stylophone qui est apparu, il y a le ukulélé, il y a le vibraslap, enfin il y a pléthore d'instruments qui sont apparus. Il faudrait qu'on sache s'arrêter un jour, parce que là on arrive à 24 pistes sur la console pour deux musiciens, ça fait un peu beaucoup, donc on va essayer de se calmer.
Est-ce que la poupée est toujours là?
Non, la poupée a disparu. La poupée a disparu parce que justement il y a beaucoup d'instruments et on va pas surcharger le décor. Il aurait fallu, si la poupée avait été encore là, il aurait fallu qu'on lui donne un rôle, et comme on a nos deux pieds et nos deux mains qui sont très pris, ça nous paraissait compliqué.
Bien. Eh ben merci Aurélien Matteau, Axel, hein, chanteur multi-instrumentiste, c'est qu'à le dire, du duo des Tites Nacelles, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
C'est nous, merci pour l'invitation.
Écoute, c'est un plaisir. On va rappeler que votre nouvel album 2-3 Trucs est sorti le 7 avril 2008 sur votre label Atome. On peut se procurer un peu partout, bien évidemment.
Oui, dans toutes les Fnac, les Virgin, tous les disquaires, en fait.
Voilà, et puis on vous retrouve sur Internet via votre beau site, hein, www.letitesnacelles.com.
Oui, ou également sur MySpace aussi, on a un MySpace.
Ouais.
C'est myspace.com/letitesnacelles.
Voilà. Et puis le plus important pour nous, vous serez en concert au Ninkasi Kao de Lyon le jeudi 12 juin 2008.
Voilà, venez nombreux.
Ah oui. Ah donc Axel, bonne chance pour la suite de vos aventures, bon concert.
Merci beaucoup.
Bien le bonjour à Sophie, et puis à bientôt. Et puis à bientôt sur Tropic FM.
Ça marche,
merci. À bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir.